très rapide.
C'est une connexion free.
Là.
Donc, bon, je vais faire une sorte de micro-introduction, je la fais maintenant à chaque fois, et je m'excuse pour ceux et celles qui l'ont déjà entendu de nombreuses fois. Le mix a lieu tous les mardis. Si j'ai un micro, c'est parce qu'on est donc à la radio. Et donc, un moment viendra, un moment dans ces discussions, des moments des questions. Et au moment de ces questions, bah, je ferai passer le micro de manière à ce que les gens qui nous écoutent à la radio puissent entendre les questions. Ça, c'est une question d'intelligibilité. Et donc, vous aurez la gentillesse donc, de bien vouloir poser vos questions en levant la main. Vous amènerez le micro, et puis, ou alors vous ferez passer le micro parce que je ne peux pas toujours accéder à partout parce que là, on est un petit peu nombreux ce soir. J'en suis ravi. Ça, c'est pour les, comment dire, les préambules. La deuxième chose, c'est que vous voyez qu'on est entouré de machines diverses et variées. Il y a des Mitel qui sont par là. Il y en a un autre là-bas, là, qui est en réactivation. Puis s'il y a d'autres machines, là, ça sera l'occasion justement d'en parler un peu plus avec Benjamin. Et puis Benjamin n'est pas venu tout seul, parce que figurez-vous qu'il y a aussi donc Benjamin Cadon et Spider Alex et Essoun qui arrivent donc d'Orléans, qui sont là à l'occasion de ce MIG. Voilà. Ce sera l'occasion de parler d'un livre qui va sortir.
Notamment, oui.
The Internet of Dead Things. Mm-hmm. Et donc Benjamin et Spider ont contribué à ce livre,
oui.
Avec une liste impressionnante de contributeurs et de contributrices. Ça a été envoyé par le mail, mais on reviendra un petit peu sur les différentes contributions. L'idée du MIG, là, c'est évidemment... alors c'est assez marrant parce qu'on s'est recontacté, ça fait un moment qu'on discute un petit peu là, de ces histoires de Minitel. L'idée, c'était un petit peu déjà d'équiper la générale, d'avoir un Minitel dans les murs à disposition. Ça, c'est la première chose. Un Minitel en fonctionnement, bien sûr. La deuxième chose, c'est que voilà, c'était un petit peu un véhicule pour faire des ateliers, puis s'intéresser à ça. Puis on s'est dit, il y a la publication qui arrive, il faut vraiment qu'on fasse un petit moment pour en parler. Puis Benjamin, j'ai encore jamais fait de présentation au MIG, alors c'était l'occasion. Voilà. Comme quoi, on le fait un peu tard,
mais
c'est bien. Ça permettait aussi, dans ce livre, il y a une contribution, je pense, importante de Nicolas Nova, qui nous a quittés là, il n'y a pas très longtemps, et voilà, qui peut faire office un petit peu aussi de... ça nous amène à une journée qu'on organise avec Nicolas et Maria, et plein d'autres gens, je crois qu'il y a une vingtaine de personnes qui s'associent pour faire une journée un peu mémorielle autour du travail de Nicolas. Ça aura lieu samedi, et donc il y aura des Minitel, mais plein d'autres choses. Peut-être ça sera, on en parlera peut-être tout à l'heure. Faire un petit peu un éventail du programme, à moins que vous vouliez peut-être en parler deux secondes et que je vous passe le micro. Oui, je pense que c'est pas mal, juste comme ça.
C'est
une petite annonce, c'est fait. Et puis voilà, l'idée, c'est un peu tombé, c'est un hasard un peu malheureux du calendrier. Mais voilà, ça permet un petit peu d'annoncer ça, parce que pour nous, c'est quand même important. Je vous laisse en parler un petit peu.
Samedi 8 février, de 14h à minuit, à la Générale, se tiendra une journée d'hommage à Nicolas Nova, qui est un ami, collègue, anthropologue, du numérique notamment, et qui est décédé le 31 décembre dernier. Et donc tout un ensemble de collaborateurs, amis, étudiants, lecteurs, se réuniront à la Générale ce samedi pour échanger, lire des extraits de livres, faire des jeux, cuisiner, faire des débats, des conférences, etc. Donc c'est une journée assez informelle qui est organisée ici en sa mémoire, et le public extérieur est bienvenu.
Voilà, l'annonce est faite, puis on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Ça c'était pour les questions introductives, et puis je vais arrêter de parler. Je vais laisser la parole à Benjamin, puis à Benjamin et Spider, voilà. Et puis rappelez-vous, pour les questions, vous levez la main, je mets dans le micro, merci, et puis à tout à l'heure.
Merci Kevin, merci Marika, merci à la Générale, je suis très content d'être là. Déjà, c'est ma première fois que j'ai présenté en France, c'était grâce à Kevin et Marika, il y a assez longtemps maintenant. Et donc, je suis très content de... J'en ai un micro ? Ouais, c'est bon. Je suis très content de, voilà, de, d'être de retour avec vous et de pouvoir... merci. Et de pouvoir parler alors, du projet Minitels, mais un petit peu rapidement d'autres projets avant. Comme c'est les mardis informels, j'ai voulu essayer quelque chose de nouveau. Donc, j'ai pas pris d'ordinateur et j'ai pas pris d'image de mes projets. Je vais en parler. Donc, ça tombe bien, vu qu'on est à la radio. En plus, j'avais pas pensé à ça, mais c'est parfait. Donc, j'ai quand même des images, mais qui sont des slides que j'ai préparées sur mon vidéo Title Maker 2000, puisque voilà, dans ma pratique, je m'intéresse à l'idée de réemploi, de réutiliser des technologies dites obsolètes. Et donc, cette machine incroyable que j'ai récupérée il y a quelques années, maintenant, m'accompagne dans pas mal d'aventures et d'ateliers. Donc, voilà. Donc, ma pratique, elle se... Ouais, c'est vert. Ça se mélange entre une pratique artistique, l'enseignement et la production culturelle. Alors, production culturelle, c'est-à-dire j'organise des festivals, des événements comme ceux-là, par exemple, et d'autres choses. On en parlerait un petit peu rapidement après. Le gros de ma pratique a démarré post-Y2K, comme on dit, au tournant de l'an 2000, en fait. Et je me suis rendu compte, bizarrement récemment, que ça avait eu un impact énorme, cette idée que peut-être on allait perdre toutes les données et que tous les systèmes informatiques pouvaient s'écrouler du jour au lendemain. Et donc, un de mes premiers projets, c'était un projet de NetArt qui s'appelait digitalrecycling.com. Vous ne pouvez pas le voir aujourd'hui parce que c'est un site que j'ai fait en Flash à l'époque, puisque c'était le meilleur outil pour faire ce genre de choses. Et c'est un site donc obsolète, donc c'est un peu parfait, quoi. Mais voilà, l'idée du site, c'était de collecter les poubelles d'ordinateur. Donc les utilisateurs pouvaient envoyer leurs déchets informatiques sous forme de fichiers son, fichiers images, vidéos, tout ce que vous voulez. Et comme une usine de retraitement des déchets, je les triais et puis après, ils étaient à disposition des utilisateurs. Donc c'était un outil de file sharing, ou on va dire peer-to-peer, pour création artistique, quoi. Et donc après, le site, on pouvait aussi publier des projets dessus aussi. Ce projet-là m'a amené à faire d'autres projets qui étaient donc la série Corrupt, qui sont des... ouais, c'est fascinant. C'est fascinant. Il y a des belles couleurs. Donc les séries... La série Corrupt explore le... ce qu'on a appelé après le glitch art. Oui, il y a une petite fille là qui n'est pas contente, mais je lui remontrerai les slides après. Elle pourra même jouer avec, et voilà. Et donc, ouais, la série de Corrupt, c'était l'idée, c'était de faire du data bending, donc c'est-à-dire de triturer les fichiers dans leur intérieur, quoi, et pour les glitcher, pour les corrompre. Et c'était un peu ce qui m'avait en fait amené à m'intéresser à l'idée du digital recycling, c'était cette idée que les fichiers pouvaient se casser ou plus marcher. Et puis en fait, on se rend compte que le site que j'ai fait, qui est en Flash, qu'on peut plus voir, il y a vraiment une fragilité en fait des informations quand elles sont numérisées, même si on a cette idée qu'on les préserve ou qu'on les, puisqu'il y a beaucoup de travail sur cette notion de numériser des archives, etc. Et finalement, moi, j'ai des projets que j'ai fait en dessin ou même j'ai fait de la broderie numérique quand j'étais aux Arts Déco avec Kevin qui était une année ou deux au-dessus de moi. Et en fait, j'ai toujours ce projet, je peux le voir, je peux le toucher, alors que j'ai des CD de l'époque qui sont morts, quoi, et que je ne peux plus accéder. Et donc voilà, je trouve ça marrant de se dire que finalement, cette fragilité, on peut aussi en faire une œuvre ou on peut en faire quelque chose. J'ai aussi, grâce à cette série, amener un concept qui rejoint en fait l'idée de file sharing, donc c'est-à-dire le torrent poisoning et une forme d'activisme ou de détournement, c'est-à-dire le retail poisoning. Donc ce terme de retail poisoning, ça veut dire en gros comment on peut hacker des lieux de consommation. Et ça a commencé avec une version, donc dans la série des projets corrupts, j'ai fait du glitch d'image, j'ai fait du glitch de vidéo. Et dans cette option-là, on avait découvert avec l'ami avec qui je travaillais à l'époque, Martial Geoffre-Roulant, qu'on pouvait glitcher le bureau de l'ordinateur, tout l'écran. Et du coup, on s'amusait à aller installer ce logiciel dans des Apple Store en remplaçant le logiciel Safari par le nôtre. Et quand on lançait Safari dans l'Apple Store, au lieu d'avoir Safari, on avait un ordinateur qui glitchait, quoi. Et donc, c'était une forme d'anticonsumérisme gentil, hein, parce que bon, on sait bien qu'on va pas résoudre ça avec nos pratiques. Mais peut-être que ce jour-là, ils en ont pas vendu un ou deux, ou les gens se sont dit, ah tiens, c'est marrant, il se passe un truc, quoi. Et donc voilà, l'idée de retail poisoning, c'est devenu après des workshops, c'est devenu peut-être un livre un jour, j'aimerais bien, où je me suis intéressé à d'autres artistes, d'autres personnes qui font ça. Par exemple, Sildo Mereles, qui a fait ça dans les années 70, où il sérigraphiait des instructions pour faire des cocktails Molotov sur des bouteilles de Coca-Cola, et il les remettait dans des magasins. Enfin voilà, il y a plein d'exemples, en fait, d'activistes, d'artistes, des fois de comédiens même. Il y a des choses plutôt dans l'humour que j'aime beaucoup. Des gens qui font des espèces d'happening dans les magasins. Il y a par exemple Reverend Billy, qui est une espèce de performeur américain complètement fou qui fait de la... C'est un sorte de... Comment on appelle ça? Un évangéliste de la non-consommation, quoi. Il a la church for not shopping. Et voilà, donc ce personnage m'intéresse beaucoup. Et donc là, de ces questions de code et de software, je me suis aussi intéressé au hardware. Et donc, le premier projet que j'ai fait en hardware, c'était à partir de manettes de NES, de Nintendo, que j'ai hackées. Et tu veux venir sur mes genoux ? Non ? Que j'ai hackées et que j'ai connecté à un petit programme que j'ai fait qui me permettait de jouer des samples, en fait. Donc, les boutons de la NES devenaient un lecteur de samples. Et en mettant 6 manettes ensemble, les gens pouvaient faire de la musique en jouant chacun des samples. Donc, il y avait cette notion aussi de sampler, recycler des sons. Je crois que j'ai un petit extrait de à quoi ça ressemble. Ça... Je ne sais pas si vous allez trop entendre dans l'air. Donc ouais, là, c'est... Le playback, c'est pas facile. Donc voilà, c'était des amis à Dublin qui étaient plutôt bons, parce qu'évidemment, ce genre d'instrument, ça marche bien si on sait faire un peu de musique, même si ça ne demande pas de don particulier d'appuyer sur un bouton, mais il faut l'appuyer au bon moment, quoi. Mais voilà, cette idée de hacker du hardware et d'en faire quelque chose d'autre, c'était un petit peu un point de départ qui m'a pas mal inspiré. Par la suite, alors oui, j'ai dû mettre des slides sur mes filles. Elles m'ont demandé, parce que j'étais en train de préparer mes slides. Donc ma première fille, Ilana, est née en 2008. Donc j'ai rajouté un petit slide. Mais en fait, c'est lié à aussi un projet qui est venu à la même époque, parce que justement, j'allais être papa. Je suis tombé sur des pubs sur Internet et des vidéos qui étaient en lien avec ça. Alors cet enregistrement.
Every minute of it.
Donc je vais expliquer. Donc voilà, cette vidéo, c'était une mère de famille américaine qui, en fait, a récupéré l'image de la NASA sur son moniteur pour bébé. Donc c'est une caméra sans fil qu'on met dans la chambre du bébé. Et puis elle a un écran. Et en fait, au lieu de voir son bébé, elle a vu la NASA. Et donc moi, je me dis, ah, trop bien, je veux hacker la NASA, tout ça. Après, bon, c'était pas vraiment la NASA qu'elle avait, mais c'est en fait des fréquences radio, d'ailleurs, mais pour la vidéo, signal vidéo et son, en 2,4 GHz, alors qui sont aujourd'hui aussi assez obsolètes, mais à une époque, c'était très utilisé. Et donc, alors moi, et puis après, j'ai découvert d'autres artistes ont exploré cette piste-là, notamment, par exemple, les Beatniks, je sais pas s'ils sont déjà venus, mais eux, ils ont fait l'inverse. Eux, ils émettaient un signal. Et puis moi, je me suis amusé à... Au départ, je voulais fabriquer un appareil pour récupérer ces signaux, les enregistrer et tout. Et puis en fait, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que ça existait déjà. Il y avait des espèces de trucs d'espionnage sur des sites chinois un peu douteux où ils vendaient des appareils de surveillance pour cacher dans des prises électriques, des téléphones où on pouvait appeler une salle de réunion et écouter une conversation, enfin, ce genre de choses. Et donc, ils avaient cet appareil. On pouvait mettre une carte SD et scanner les fréquences et enregistrer, donc portable, qu'on pouvait recharger. Donc j'ai commencé à faire ça un peu partout en Europe. Et après, j'ai mis des boîtiers en fait, dans la rue où on pouvait voir en temps réel l'image de personnes, enfin de caméras de surveillance dans la zone où on était. Et c'était aussi chouette parce que c'est des images très pleines de bruit, de signaux, quoi, c'est très glitch, quoi. Et plus on se rapproche de l'émetteur, plus l'image est nette. Donc j'aimais bien cette expérience, du coup j'ai fait des workshops où les gens pouvaient chercher des signaux dans leur ville et voilà. Donc ça c'était un petit peu le... Alors Nora, 2012, ma deuxième fille, voilà, donc, belle typo. Et c'est l'époque où là, alors je me suis revenu vers le hardware, mais alors de façon aussi parce que j'ai rencontré des amis hollandais qui eux avaient une pratique qu'on appelle le circuit bending, donc qui est vraiment détourné des objets. Alors, je ne sais pas où il y avait un jouet d'enfant tout à l'heure, mais des jouets, par exemple, sur lesquels on appuie, qui font du son, et puis on les fait crier, on tord des circuits, un circuit bending, pour en faire un instrument de musique ou pour en faire une installation, une sculpture. Et donc, Refunk Media, c'est une série d'installations qu'on a fait pendant... presque 10 ans, un peu partout dans le monde, où on faisait des grandes chaînes. Donc ça faisait 10 mètres de long en général. J'avais cet objectif de faire 1 km. Mais bon, on s'est dit 10 mètres, c'est déjà bien. Et si on le fait assez, peut-être on fera 1 km. Mais bon, ça fait quand même beaucoup de fois 10 mètres. Donc on l'a fait une bonne dizaine de fois en tout cas. Et dans des contextes différents. Donc c'était intéressant aussi à chaque pays, chaque endroit où on allait sur des marchés aux puces, on récupérait des poubelles. Et donc on avait cette chaîne de 10 mètres où tous les appareils étaient interconnectés. Je crois que j'ai du son de ça, peut-être. Je m'en rappelle plus. Peut-être c'est ça après. Ouais, voilà. Donc ça le son de l'installation, puisque c'est une installation qui est très sonore. Le but, c'était créer une boucle... sonore et visuel de tous ces objets connectés les uns aux autres. Et donc quand on se promène le long de cette chaîne de 10 mètres, on a des bruits de jeux vidéo, on a des bruits de moteur, on a des bruits de selon où on se déplace. Alors les jeux de Pong sont toujours vachement bien parce que voilà, il y a un rythme. Et puis on essaye aussi de créer vraiment des boucles qui soient pas trop répétitives, c'est-à-dire qu'elles le sont, mais avec des petites surprises, des petites cassures, des petites choses. Donc c'est beaucoup du travail, en fait, je parle de hardware sampling, quoi. Donc, on sample du hardware et puis c'est créer un morceau de musique. Comme si on crée un album à chaque fois, on faisait une nouvelle chanson, et ben, chaque installation, c'est presque un nouveau morceau, quoi. Donc là, c'était à Taïwan, donc on avait plein d'appareils, des Bouddha machines, des choses des machines de prière, en fait, qui tournaient toutes seules. Là, on a ça doit être une Atari avec un jeu d'hélicoptère. Ah, là, j'ai passé à la prochaine track. Voilà, après, j'ai aussi hacké des Kindle, enfin bref. Et donc, ça nous amène à IODT, alors qui est un projet donc, qui a démarré avec Jérôme Sinclair. Donc, Jérôme, alors moi, comme je vous ai expliqué, Dans le projet Refunk Media, j'avais hacké des Minitel, mais alors de manière un peu barbare, on va dire, puisque je faisais des circuit bending, donc de la carte, de la puce qui génère les graphiques à l'écran. Si on fait des courts-circuits, on arrive à lui faire faire des trucs incroyables, et puis afficher hyper vite. Enfin, il fait des trucs, il devient fou, quoi. Et c'est assez intéressant, mais c'est très difficile à contrôler. Mais c'est des machines incroyables, quoi. On peut vraiment y aller... Parce que le circuit bending, donc cette pratique, plus les appareils sont récents, plus c'est difficile, parce qu'ils cassent vite, et une fois qu'ils sont morts, bah, ils sont morts. Alors que moi, il y a des Minitel, j'ai trouvé dans la rue, ils avaient passé 2-3 jours dehors, j'ai repris, j'ai séché chez moi, j'ai branché, marché. Donc Jérôme, lui, alors il se considère comme ex-artiste, et c'est ses mots, c'est pas les miens. Il est aussi ingénieur, développeur. Hein. Au départ, il est ingénieur de formation. Il a une pratique artistique pendant très longtemps. Et je crois que voilà, il a décidé de. Je crois que le Covid aussi n'a pas aidé, comme beaucoup de gens. D'ailleurs, ce projet, on l'a démarré avant le Covid. Et donc, Jérôme, lui, il avait commencé à faire des librairies pour Arduino, donc qui permettent de. Arduino, c'est des petites monocartes, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui permettent de contrôler donc l'image de l'écran du Minitel, donc on pouvait créer une image fixe par exemple ou des petites animations. Après, il a commencé à développer un peu plus des choses autour du clavier et de l'écran et du Raspberry pour faire du live coding. Donc ils avaient un projet qui s'appelait Demo, le Dead Minitel Orchestra. Donc ils faisaient du live coding sur Minitel, ce que je trouvais génial. Et puis un coup, bon, c'était un peu la blague, je dis ah vas-y, je veux checker mes emails sur Minitel, on le connecte au web quoi. Voilà, de fil en aiguille, de discussion, on arrivait à créer ce projet. Alors, moi, j'avais acheté le nom de domaine, The Internet of Dead Things, mais genre il y a 10 ans avant, parce que quand le Internet of Things est sorti, j'ai acheté le nom de domaine, The Internet of Dead Things. Et pendant 10 ans, j'ai payé ce nom de domaine, je ne savais pas quoi en faire. Et finalement, ce projet est devenu The Internet of Dead Things Institute, IODT. J'étais content, j'avais trouvé une utilité pourquoi j'avais acheté ce truc et que je le payais depuis si longtemps. Et donc Minitels, donc système d'exploitation Minitel, Minitel SE, qui est donc ce que vous voyez ici. Alors je pourrais vous montrer plus précisément tout à l'heure, mais en gros on a un kiosque. Hein, comme à l'époque du Minitel, avec des numéros qui permettent, puisqu'il n'y a pas de souris, évidemment, c'est un Minitel, on peut aller dans des sous-menus, et puis dans chaque sous-menu, il y a un certain nombre d'interfaces. Alors, soyons bien clairs, Jérôme est l'architecte et le développeur de ce projet. Moi, je n'ai pas les compétences. Je lui dis, ah oui, mais non, mais là, c'est pas beau, là. Vas-y, on déplace. Non, mais là, il y a trop de trucs dans les menus. On simplifie. Donc voilà, moi, j'étais plus sur la conception, on va dire, graphique et de UX plutôt que du développement. Mais de fil en aiguille, il a trouvé, évidemment, ça s'inspire d'outils et de choses qui existent. Hein. Il y a déjà pas mal de gens qui travaillent sur ces questions-là. On a donc on affiche le terminal d'un Linux à la bonne échelle, à la bonne taille. Et on utilise certaines applications qui existent. Hein. Donc, par exemple, notre navigateur Internet, c'est Lynx, qui est un navigateur qui existe dans le terminal sur n'importe quel ordinateur. Et ça permet de voir des sites. Ouais.
Avec un I ou un Y ?
Y. Et ça permet de voir des sites. Alors, les sites, par exemple, qui ont du JavaScript, on ne peut pas aller voir, hein, c'est pas fait pour. Il y a des sites qui carrément nous bloquent. Par exemple, Facebook bloque l'accès parce qu'ils veulent pouvoir traquer, etc. Ce qui est intéressant, quand on va sur certains sites, ça nous montre tous les cookies, tous les trucs qu'ils veulent voir en permanence. Donc, faut accepter chaque cookie ou dire OK pour tous. Mais si on fait chaque cookie, on se rend compte qu'il y en a vraiment beaucoup. Et c'est hyper bien parce que c'est une autre expérience du web, quoi. Et donc, ça a amené à avoir envie de parler de ces questions-là, mais d'étendre un petit peu la discussion de manière plus large et d'en faire un livre, donc, qui est The Internet of the Things, qui est le titre, qui va sortir, je l'espère, dans les prochains jours. J'avais accepté cette invitation en espérant qu'on arrive à le finir. Ça fait, pour ceux qui me connaissent, ça fait 2 ans et demi ou 3 ans qu'on est dessus. Mais bon, on fait tous plein de choses et voilà. Donc là, j'ai le petit générique des personnes qui ont gracieusement accepté de contribuer. Donc Jérôme et moi-même au départ. Donc on a Alexandre Ludovico qui est l'éditeur du magazine Noral qui veut nous faire une introduction. C'est un petit peu lui qui nous bloque. Mais bon, ça arrive la semaine prochaine. Régine Debatty, qui a, c'est un interview qu'elle a fait sur le projet démo. Teresa Dillon qui parle de réparation. Nicolas Nova, donc, qui nous a quittés et qui malheureusement ne verra pas le livre fini, qui nous parle de son adolescence et de son extinction. C'est un récit autobiographique, donc je suis hyper content de ce que c'est de faire, de grandir avec le Minitel dans les années 80 et d'avoir des factures de 10 000 francs à l'époque parce qu'il a abusé, qu'il allait sur des forums pour geeks de jeux. Alors attendez, je vais remettre le générique pour qu'on voit tous les noms parce que c'est allé. J'aurais pu le ralentir, mais si, je peux vous montrer d'ailleurs comment. Alors hop, non, je suis pas au bon endroit. J'ai fait une erreur. C'est un super outil, pour ceux que ça intéresse. Si vous voulez faire vos slides, attends, je suis peut-être allé trop loin. Ah oui. Hop. Voilà. Ensuite, on parle de réparation, de maintenance, de care, ces questions-là. Donc avec Teresa Dillon qui travaille sur ces questions-là, qui est une amie irlandaise, Nicolas Nova, Laurie Emerson qui a créé le Media Archaeology Lab au Canada. Garnett Hertz nous parle, lui, plutôt d'archéologie des médias par la pratique, de circuit bending. Janet Gunter faisait partie du Repair Right au UK, donc on est plutôt dans les questions de lobby et de législation sur comment rendre le droit à la réparation, etc. Et puis, donc, Spider Alex qui nous a contribué à un texte, donc je vais peut-être te laisser dire de quoi ça parle rapidement. Et puis tu as invité, du coup, toi, d'autres personnes. La liste s'allonge à chaque fois, mais c'est un plaisir. Donc, si tu peux nous dire peut-être deux mots.
Ouais, mais c'était un texte sur la souveraineté technologique, hein, parce qu'on s'était rencontré avec Jérôme. Et voilà, à ce moment-là, le livre, le deuxième volume, était sorti et ça lui avait bien parlé. C'est une perception de la souveraineté technologique, pas comme les États-nations peuvent actuellement utiliser ce terme et l'instrumentaliser. C'est plus une conception depuis les mouvements sociaux, non? Le fait que la société civile a toujours développé les technologies dont elle avait besoin pour communiquer la lutte et la résistance et essayer d'appliquer la logique de la souveraineté alimentaire à la production et le développement des technologies numériques. C'est une réflexion là-dessus. Et du coup, c'est suivi d'un autre texte, parce que ces questions-là, toujours la question de comment on en parle avec nos communautés, parce que l'utilisation des technologies, elle n'est pas solitaire. Et quand on veut passer à des alternatives ou à d'autres technologies qui sont plus éthiques ou une autre type de technologie, il faut le faire en communauté, il faut le faire avec ton collectif. Et donc l'autre, c'est plus un texte qui offre une espèce de méthodologie d'atelier qu'on a déjà fait pour réfléchir avec tes communautés sur des façons de trouver des tactiques et des stratégies pour passer à d'autres types d'utilisation des technologies ou de développement. Et en fait, là, on a un peu compilé des exemples qu'on a glané avec plusieurs amis au cours du temps, entre lesquels Benjamin, sur des tactiques de résistance, des tactiques de modification, des tactiques de sabotage aussi. Mmh. Et donc c'est un peu ça ce qui t'a donné un peu un mal de tête, puisqu'on a rajouté une autre colonne sur la question du sabotage dans la dernière version, qui est un peu foutu en l'air ton layout. Non, c'est désolé.
Je suis très content que tu le fasses. Tu peux le... Et voilà, donc il y a une partie, on va dire, d'un appel à action et puis de pratique, en fait, finalement. Et puis, on a aussi Geert Leuvink, donc, qui fait partie du Institute for Network Culture à Amsterdam, qui a contribué à un texte hyper bien. Qui parle, lui, de Extraction Rebellion et de... Je ne sais plus l'autre terme, j'ai oublié déjà. Mais bref, c'est un texte hyper inspirant. Et pour moi, le fait que Geert Leuvink intervienne aussi avec cette grande influence qu'il a eue avec l'idée Tactical Media et tout ça sur ma pratique, ça fait hyper plaisir. Ça fait très longtemps que je suis dessus, mais je suis content qu'on y arrive. Je vais... parler un peu rapidement de... maintenant, j'ai en fait étendu un petit peu ces... Enfin, essayer de combiner ces réflexions sur qu'est-ce que c'est que le réemploi de technologies obsolètes et les différentes façons de le faire que j'ai alors, en transformer à la fois en workshop, en atelier et en projet plus récemment, que j'ai appelé Tech Mining, mais qui a démarré bien avant ce que je faisais des workshops, notamment qu'on appelait les e-waste workshops, donc à partir de déchets informatiques, à partir de 2005, donc il y a déjà une vingtaine d'années. Et donc, pour moi, il y a deux aspects. Donc, il y a le end of use, donc la fin d'utilisation d'une technologie, c'est-à-dire parce que plus personne fait ses conférences sur du Video Title Maker 2000, mais peut-être qu'on devrait quand même. Et donc, finalement, le projet Minitel ou le Recycling Entertainment System, donc les manettes de RES de Nintendo hackées, ça, c'est une façon de... C'est du upcycling, on va dire, pour faire simple, de réemploi, de détournement, de réutilisation, mais en gardant finalement l'objet c'est peut-être une nouvelle fonction, mais on le garde dans sa forme ou dans son intégrité. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. Et puis il y a le end of life. Alors end of life, c'est-à-dire quand les choses sont cassées, pas réparables. Qu'est-ce qu'on en fait? Notamment quand je faisais des workshops à partir de déchets informatiques. Ce que j'aimais bien, c'est que on n'utilise pas de nouvelles matières, on utilisait des choses qui étaient là, très souvent qui encombraient les placards et des pièces entières dans certaines écoles où on était invité. Sauf qu'à partir du moment où tu commences à démonter des trucs, d'en casser des fois, en fait, ta pile de déchets, elle augmente, et puis tu te retrouves surtout avec des carcasses en plastique, beaucoup de carcasses en plastique, et on ne sait pas quoi en faire. Et là, c'était au moment du Covid. Au départ, c'était pour me servir de plastique pour faire autre chose. J'avais découvert des choses comme Precious Plastic, je ne sais pas si vous connaissez, mais le réemploi de plastique en le broyant, etc. Et donc, j'ai commencé à, après des mois de confinement, à broyer des morceaux d'ordinateur, des morceaux de carcasse de toutes sortes de Minitel, notamment j'avais des Minitel cassés. Et donc, j'ai fait des sortes de pains de Weetabix à partir de Minitel broyés. Et finalement, en voyant l'objet, je me suis dit, mais c'est trop bien, je ne vais pas m'en servir pour faire autre chose. Donc, c'est devenu un projet que j'ai appelé l'essence même. Donc, l'essence même, une sorte de résumé de l'objet, mais aussi un jeu de mots sur l'essence. Il y a Ultimate Waste, qui est un autre projet où je broie des écrans, le plastique de l'écran, et je le mets par-dessus l'écran. Donc, du coup, on ne voit plus l'écran, mais le plastique qui est... Voilà. Mais on voit un petit peu à travers, parce que je broie et je fonds pas hyper bien. Donc, on voit toujours un peu à travers. Et puis là, plus récemment, j'ai fait une série que j'ai appelée Core Sample, où j'ai imaginé un futur où on va faire des explorations d'archéologie ou plutôt de géologie. Et on va trouver des strates d'ordinateurs et de choses qu'on fondu, broyé ou qui ont été empilées. Et donc, en faisant ces carottages géologiques qu'on pourrait faire dans le granit ou autre chose, au lieu d'avoir de la terre, de la pierre, on aura du plastique. Et donc, je broie de l'informatique, des circuits, du plastique, je les fonds, je les tasse et je fais des carottes, quoi, une sorte de carottage. Donc ça fait 1 mètre, 2 mètres, ça dépend. Et donc ça, voilà, c'est une série où du coup j'ai réussi à vider mon atelier de tout déchet, en fait. Alors j'ai une grosse carotte maintenant, mais à un moment je cherche des déchets d'ailleurs. Et ça, j'étais content de me dire voilà. Et à partir du moment où on change notre rapport aux choses et on voit la valeur différemment, ça m'intéressait. Donc et maintenant, next. J'ai commencé un nouveau collectif qui s'appelle The Internet of Living Things. Après le cyberpunk, on va aller vers quelque chose de plus lumineux. Et j'ai envie d'explorer un petit peu l'idée de compostage, de compost et de compost informatique, compost de données, compost de plastique et d'électronique. Donc on ne sait pas trop encore où on va. Donc Vincent, c'est un ami de Nevers qui est artiste, botaniste, régisseur, enfin bref, il fait plein de choses. Et on a envie d'essayer de mélanger des choses. Alors, notamment là, on s'intéresse au CD, comme le compact disque, comme support, étant un des derniers supports physiques des données. Est-ce qu'on ne peut pas en faire... Est-ce qu'on peut pas en faire est-ce qu'on peut pas en faire quelque chose? Donc c'est vraiment embryonnaire, j'en parle, mais on a un nom, c'est déjà pas mal. Et puis voilà quoi. Et donc oui, pour finir, on parlait de communauté, de faire des choses et tout ça. Donc avec Dasha et Lina, on a créé la No School à Nevers, mais qui est aussi, Vincent notamment en fait partie, et puis Nico, et puis plein de gens. Eric Ben cette année vont venir. On essaye de créer une plateforme, un lieu de rencontre, d'échange, de communauté pour artistes, pour chercheurs, pour musiciens. Et on espère s'en servir aussi pour faire tourner un peu entre guillemets les amis ou les jeunes artistes, faire découvrir des gens, essayer de bien les payer, de bien manger, de passer du bon temps ensemble. On passe 2 semaines à Nevers, donc en Bourgogne, dont le jeu de mots No School Never. Voilà. Ah, Baya. Et donc, c'est notre 6e édition cette année. Et là, c'est la fatigue. La fatigue est là. Et voilà, donc si voilà. Merci. Merci, tu m'as pas.
Désolé, mais ouais, c'est un crash test hein, de faire une conférence avec
un enfant. Mais ça va, comme j'ai dit, j'en ai deux, j'ai l'expérience. Voilà, et donc ça, c'est le. Ouais, je peux vous mettre quelques petits slides juste pour le plaisir. Je crois que j'avais oublié de mettre un sec.
Nous avons d'un côté les télécommunications, satellites, téléphones, télévision pour transmettre les informations. Et puis l'informatique avec les ordinateurs pour la traiter. Les deux techniques étant appelées à fusionner, fusionnons également les mots. Et voici la télématique. De quoi s'agit-il en réalité? Voici un ordinateur qui calcule, compare, combine les informations et fait apparaître les réponses sur un écran lumineux. Un écran qui peut se trouver très bien, très loin du calculateur et qui ressemble comme un fer à votre téléviseur. D'ailleurs, voici un téléviseur ordinaire équipé du dispositif Antioch qui lui permet de recevoir des informations provenant d'un ordinateur. Des résultats de football, la météo, peu importe. Eh bien demain, d'autres systèmes permettront de dialoguer avec des ordinateurs à travers votre téléviseur. Ainsi, toutes ces techniques vont se fondre en un seul réseau, nous apportant toutes les informations possibles. C'est la télématique. Grâce à ce mélange d'informatique et de télécommunication, la révolution de l'ordinateur va s'étendre. Le rapport Nova
un petit fondu, voilà, hop. Je vais pas vous... Elle est un peu longue, mais... Voilà, donc ça c'était un petit peu pour ma partie présentation. Donc là on a le Minitels qui est là, qui est disponible. On va donc en même temps que le livre, l'idée c'est de publier. Enfin, on a déjà commencé un manuel d'instruction de comment installer vous-même ce système. Donc sur un Raspberry Pi. On va aussi publier le câble et les instructions comment faire un câble, puisqu'il faut faire un petit câble que j'ai là. D'ailleurs, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, il y a un tout micro-circuit hein, dedans. Et on a réfléchi un moment à qu'est-ce qu'on allait mettre autour de ce circuit. Et en fait, on a trouvé que recycler... La prise téléphone était le meilleur casing. Donc en fait, dans cette prise, il y a un tout petit circuit qui est là. Donc il y a un transistor et 3 résistances. Hein, c'est rien de très compliqué. Et après, on a ce câble DIN qui permet de connecter donc à l'arrière du Minitel. Donc le Minitel n'est pas modifié, hein, puisque en fait il y avait des périphériques hein, pour le Minitel. Il y avait des imprimantes, il y avait tout un tas de choses. Et on en a d'ailleurs. Et de l'autre côté, il y a un câble qui est ce câble serial USB. Donc il y a un autre circuit ici, hein, mais ça on l'achète. Quoi. Et donc ça vient se connecter là. Et de l'autre côté, il y a 3 fils hein, qui vont vers le Minitel. Donc grâce à ça, on peut contrôler et l'écran et lire le clavier. Il y a une petite manipulation à faire au démarrage du Minitel avant de lancer le Raspberry pour augmenter la capacité de transférer des données et puis pour que le clavier soit bien reconnu, etc. En gros, j'oublie rien.
C'est tout ?
Ouais, voilà. Donc je peux, ouais. Alors je ne les ai pas encore, je ne vais pas vendre des câbles ce soir, mais on a discuté que potentiellement on ferait une petite session d'un workshop quoi, pour ceux qui sont intéressés pour fabriquer son câble. Et puis je vous vendrai quand même les composants parce que c'est cher, mais c'est pas très cher. Je pense pas que ça coûte. Faut que je regarde. On a des listes, mais c'est pas. On parle de 10-15 balles, quoi. Max. Je pense.
Ça se fait encore les connecteurs. Attends. Comme j'ai dit pour les questions, je vais faire passer le micro, mais tout le monde n'était pas là quand je l'ai dit. Donc j'ai le micro. Voilà, on va lancer les questions. Donc on va remercier donc Benjamin et Spider et Soul. Et puis je vais faire passer le micro.
Ça se trouve encore des connecteurs DIN ou pas ?
Oui, bah oui, ça c'est neuf. Hein. Tu vois, ça vient de Chine, hein. Je pense. Je doute que. Après, je pense qu'on pourrait le faire, mais c'est pas très compliqué. Hein. C'est quelques. Mais oui, ça s'achète, on coupe, on récupère les trois fils et on branche sur notre circuit. Donc c'est. En fait, pareil. Hein. Ça c'est un câble qu'on achète. Standard, il y a des standards hein, pour ces choses-là, et ça permet de voilà de faire ça. Vous pouvez le faire tourner peut-être pour ceux qui veulent regarder. Et donc ouais, ceux qui s'intéressent, on verra, on organisera ça, les gens pourront s'inscrire, on commandera ensemble les composants et puis on fera ensemble quoi. Et puis pour la partie installation, on a déjà créé un pad, mais il faut qu'on le teste un petit peu, parce que c'est toujours le problème des projets open source, il faut rendre ça accessible et utilisable et bien documenté, quoi. Parce que Labo Media font ça très bien, si tu n'as pas une documentation qui tient la route, à moins d'être très bon ou spécialiste, c'est quand même pas facile. Et même en étant très bon, je pense, des fois, il y a des choses, on ne peut pas les deviner, quoi. Donc voilà, on a commencé ce travail.
Ouais. Alors pour le coup, oui, effectivement, il y a une grosse documentation sur. Parce que ça, c'est une façon d'interagir avec les Minitel, hein, c'est-à-dire connecter en fait un Raspberry Pi. Mais il y a plusieurs autres méthodes qui existent. On a parlé tout à l'heure de la méthode brutale d'envoyer directement du signal électrique en fait, à travers les composants électriques. Ça, c'est une autre méthode. Mais en fait, il y a tout un ensemble de groupes de recherche. Mm-hmm. Je pense au PAMAL à Orléans notamment. Qu'on une méthode en fait qui réutilise en fait les ondes du téléphone, enfin les ondes sonores du téléphone. Enfin voilà, il y a différents groupes de recherche qui ont différentes méthodes de faire. Ça c'est une méthode, c'est pas la seule. Et sur le wiki, donc l'espace de documentation numérique en fait de la Labo Media, il y a pas mal de documentation qui est existante déjà, avec pas mal de ressources, voilà, donc pour ceux, celles qui s'intéressent. Et puis voilà, donc effectivement, nous, pour l'instant, on est en train de monter un groupe test, hein, pour un peu une sorte de petite communauté autour de ce système-là, là, pour pouvoir un peu le dispatcher. Donc ouais, y a un nœud qui est en train de s'installer ici à la Générale. S'il y a des gens qui s'intéressent, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Moi, j'avais quand même une question, parce qu'en fait, alors l'idée de cette conférence, c'est aussi d'inaugurer un petit cycle autour de ce qu'on appelle le permacomputing, mm-hmm. de manière un petit peu... Donc il y a Jaromil la semaine prochaine qui va venir en parler, puis voir Sarah Garcin, mm-hmm. et puis on va continuer un peu, parce que c'est des thématiques en fait, qui traversent un peu toute la communauté, mais qui sont relativement peu, finalement, encore peu disséminées. Il faut encore s'intéresser un peu à la littérature anglophone, et enfin voilà, nous on a envie un petit peu d'ouvrir. Et justement, moi, la question que j'ai envie de poser par rapport à donc ce qu'on appelle le permacomputing, c'est comment rendre l'usage de l'informatique un peu plus soutenable par rapport en fait à notre contexte écologique. Mmh. On le dit en blaguant, mais en même temps, il y a quelque chose d'un peu vrai, c'est-à-dire le fait de recycler en fait des vieux Minitel et en fait, il y a un ensemble de paramètres en fait qui se rapprochent un peu de cet objectif. Mmh. Et peut-être j'aimerais bien qu'on les liste un petit peu, ou tu nous parles aussi justement de en quoi, hormis justement juste le fait de réutiliser un vieil appareil qui a 50 ans, quoi, permet en fait, donc vraiment au-delà de cette couche-là, pour toute la couche, toutes les externalités en fait de l'appareil, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'il y a cette idée qu'on a tendance à. Enfin, aussi, des fois, c'est pas forcément qu'un choix. Par exemple, quand la télévision passe de l'analogue au numérique, toutes les télés deviennent obsolètes d'un seul coup. Et en fait, on arrête de s'en servir, alors que ces télés marchent encore. Des fois, elles ont des qualités intéressantes, il y a des esthétiques, il y a des choses. Et donc, je pense que dans l'idée de permacomputing, c'est de dire ne mettons pas tout aux oubliettes. En fait, il y a des choses qui peuvent servir encore aujourd'hui. Alors, pour peut-être des usages limités, pour certaines choses. Mais en tout cas, c'est une façon de penser le recyclage, parce que le recyclage... comment il est pratiqué, quand il est pratiqué pour l'informatique, c'est broyer, détruire pour extraire des minéraux et des terres rares et du cuivre et de l'or, etc. Et donc c'est... Alors, ça va devenir de plus en plus nécessaire parce que les ressources naturelles le sont moins de moins, abondantes. Et il y a plus d'or dans des déchets informatiques que dans des mines, par exemple. Mais au passage, c'est plein d'énergie, plein de produits chimiques, plein de choses. Alors que, ce Minitel, il peut servir à Pinode ou faire du chat ou autre chose. Je sais que moi, pendant un moment, je l'avais chez moi, juste pour la radio, tout bêtement. Ça allait plus vite que de lancer autre chose ou pour un chat. Enfin bref, il y a des possibilités. Et puis des usages à imaginer. Et donc, l'idée de permacomputing, c'est cette notion de se dire soyons plus efficaces aussi, faisons des systèmes qui fonctionnent mieux plutôt que des systèmes qui consomment plus de ressources, quoi. Donc, c'est un petit peu ce que moi j'en comprends, en tout cas, de ce que ça peut vouloir dire. Et je crois que l'idée du projet d'Internet of Dead Things, c'était ça, c'était de dire qu'est-ce qu'on fait de toutes ces ressources qui sont là, ces objets qui prennent de la place. Ouais, c'est beau. Et donc, qu'est-ce qu'on peut créer avec, quoi. Et moi, je trouve qu'il y a un monde à imaginer où on n'est pas tout le temps avec le dernier système, dernière chose. Alors, c'est vrai que je suis venu quand même ici avec mon Minitel, toute mon interface. C'était un peu plus lourd que juste mon ordinateur portable de d'habitude, je dois bien l'avouer. Mais en même temps, c'est pas le même genre de présentation, on est d'accord. Donc ça a quand même une qualité qui est différente. Et je trouve qu'on a vite oublié. Et puis, je parle pour moi et peut-être d'autres personnes ici, c'est que je fais partie d'une génération qui a connu un peu tous les formats de support informatique et de musique, etc. Et la transition de l'analogue au digital. Et en fait, c'est aussi un peu un devoir de transmission. J'ai des étudiants, j'enseigne dans différents contextes, qui sont des fois très jeunes, qui ne connaissent pas le Minitel ou qui ne connaissent pas un signal vidéo simple et tout. Et quand on leur montre, on voit bien qu'il y a une envie, une possibilité de création qui est riche, quoi. Par exemple, la cassette est en train de revenir en force à fond. Là, j'ai entendu qu'il y a une boutique qui vend que des cassettes à Paris, dont certaines assez chères, des mixtapes, des cassettes pas rares. Ils vendent aussi de la VHS, mais de la cassette audio essentiellement. Comme le vinyle a pu l'être. Le vinyle n'a jamais disparu, mais voilà, je trouve que c'est intéressant de se dire... Cette transition qu'on a fait quand même assez vite, finalement, a laissé plein de cadavres de informatique et autres, ou analogues d'ailleurs. Et on ferait bien de les regarder, d'en faire quelque chose, quoi. Voilà, c'est un peu ce que je pense.
Bon, j'ai une anecdote qui a rien à voir. Mais l'ordinateur de Maria a lâché il y a un mois. Donc on cherchait quoi acheter. Et en regardant les reviews, en fait, pour les derniers Mac, donc c'est-à-dire des Mac avec genre 12 cores, processeur incroyable par rapport à tout ce qu'on a eu avant, les gens disent oui, bon alors, ce Mac-là, si c'est pour faire un petit peu de vidéo et de la prise de notes, c'est OK. Mais si vous faites plus que ça, plus que du web, de la prise de notes, un peu de vidéo, faut vraiment prendre les versions pro, parce que sinon c'est pas assez en fait. Ça m'a vraiment fait réfléchir. Je me disais, il y a 20 ans, des ordi qui faisaient 1000 fois moins que ça, on considérait qu'ils étaient OK pour faire de la prise de notes, de l'internet et de la vidéo. Enfin, et regarder des vidéos. Et du coup, en fait, c'est incroyable, hein, le fait que pour faire à peu près le même type d'usage, on ait besoin d'usines à gaz complètement délirantes. Il y a un truc sur l'explosion en fait, des demandes pour des choses très, très basiques qui n'ont pas vraiment changé en termes dans leur nature, quoi. C'est vrai que c'est là que les questions de permacomputing deviennent intéressantes. C'est qu'en fait, il y a des fonctions qui, en soi, pourraient être assez permanentes dans le temps. C'est-à-dire accéder à du texte et des images mis en forme dans une page, qui, en soi, on subisse une inflation de la quantité de données, la quantité de mouchards et autres processus qui tournent en arrière-fond. Et du coup, il y a une vraie place en fait pour repenser une logique où des systèmes antérieurs puissent permettre d'accéder à ce type de contenu qui n'a rien de technologique et de très avancé. En fait.
C'était un commentaire là-dessus. En fait, il y a aussi une voie du milieu, c'est celle du logiciel libre. Par exemple, moi, mon ordinateur principal, il date de 2008. Et je peux faire la plupart des choses. Juste, ceux qui font le système d'exploitation ne vendent pas forcément les ordinateurs et n'ont pas du tout intérêt à ce que ce soit lent et de plus en plus gourmand, etc. Ouais. Après, il y a quand même des usages qui, au bout d'un moment, les vidéos deviennent plus lourdes, enfin, ce genre de choses. Mais après, il y a des trucs pour, par exemple, si on télécharge les vidéos de YouTube, les télécharger en moins grosse résolution, etc. Et enfin, pour l'instant, la plupart des usages, ça marche, quoi.
Juste pour rebondir ce que disait Nicolas, j'avais été à une sorte de rencontre d'enseignants en école d'ingénieurs au Centre Internet et Société. Et en fait, il y avait cette question qui commençait à rentrer dans certaines écoles d'ingénieurs, mais vraiment ça se comptait un peu sur les doigts de la main, de comment en fait intégrer ces questions-là en fait dans la conception des outils et dans une ou deux écoles en fait ils parlaient de penser à faire des versions dégradées en fait de certains outils, donc ils étaient en train en mode je sais pas comment dire décroissant on va dire que c'était hyper dur à faire admettre en fait à des ingénieurs de travailler sur des versions dégradées des outils. Mais il y avait déjà plusieurs écoles qui commençaient à essayer de poser cette question, de se dire, mais en fait, est-ce qu'on est prêt à accepter un service dégradé, finalement ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est-à-dire, en fait, qui fait le job, mais sans avoir toutes les extensions, etc., mais qui ferait juste le job et qui serait peut-être... Donc, c'était aussi une question qui commençait à être... abordé aussi dans quelques écoles d'ingénieurs.
Moi, je donne
de manière assez, en fait, un peu contre nature, on va dire.
Pendant que tu fais le micro, moi, je donne les cours à Centrale et j'aborde ces questions-là avec les étudiants. Ils sont hyper réceptifs. Okay. C'est pas toujours eux, je pensais après, c'est leurs employeurs et pour qui ils travaillent et quels sont les... Mais, ouais.
Oui, c'est ça, j'abonde dans ton sens. Il y a aussi un risque de low-tech washing aussi. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, dans quasiment toutes les écoles d'ingénieurs, il y a des programmes low-tech. Alors, ça passe pas, c'est vrai que ça ne passe pas encore très, très bien auprès des élèves et de certains profs, mais grosso modo, c'est absolument généralisé. Par exemple, en première année, à l'Institut Mines-Télécom, à côté de Centrale, il y a un cours hyper radical qui explique absolument tout. Et ça commence comme ça. Après, est-ce que ça a un effet ? C'est une autre chose.
Tu veux dire à l'étape après, quoi,
voilà. Voilà, il y a un sujet de TD, c'est comment produire un plan pour diviser par deux l'impact du parc numérique de l'école, l'Institut Mines-Télécom, d'ici 2030. Voilà, ça, c'est une séance de TD parmi plein d'autres du même topo. Et du coup, je l'ai copié et je l'ai introduite dans mon cursus aussi à Sorbonne Université. Et par contre, je m'inquiète, moi, du fait que, précisément, c'est en train de devenir un truc assez mainstream et que dans le côté low-tech, on en avait d'ailleurs parlé à Orléans, il y a un peu plus d'un an, que ce vocabulaire low-tech, des fois, on en oublie certains aspects. C'est-à-dire qu'il y a peut-être les aspects techno qui intéressent encore vraiment les ingénieurs, mais par contre, la question de l'usage, à quoi ça sert de fabriquer des produits comme cela ? Elle est un petit peu, elle est mentionnée dans les cours, mais elle est un petit peu éludée en pratique, en fait.
Ouais. Moi, je peux aussi faire un rebond, etc. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une discussion avec quelqu'un de l'école des Beaux-Arts de Lyon, et en fait, en discutant. Justement, j'ai mis un petit peu, il me disait, ouais, ça serait bien parce qu'on est en train de monter des projets européens. Et puis, on réfléchit sur l'intelligence artificielle. Puis, moi, je lui disais, ben non, en fait, c'est pas sur l'intelligence artificielle qu'il faut réfléchir. Aujourd'hui, c'est sur le permacomputing, quoi. Et donc, il me dit, mais non, mais c'est pas vendeur dans les dossiers, quoi. C'est-à-dire que ce mot est pas. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire que Parce que quand on en comprend les principes et quand c'est pas une opération de justement de blanchiment en fait du langage etc ou même de en fait l'idée petit à petit justement de faire du dossier poisoning tu vois du et d'arriver petit à petit comme ça à justement introduire cette idée qu'en fait c'est justement si c'est peut-être le un des sujets du enfin c'est peut-être même le sujet sur lequel faut se pencher maintenant et je pense que c'est une de nos responsabilités à nous en fait, parce qu'on en comprend un petit peu les enjeux, de l'enclencher en fait dans ces mécaniques décisionnelles en fait, et de le rendre justement un petit peu, je sais pas comment dire,
glamour.
Ouais, pas glamour, mais comment dire, en fait, d'arriver à en faire la médiation quoi, et parce que je pense qu'il y a un important travail à faire et que justement aujourd'hui, moi je vois en tout cas la plupart des dossiers sont condamnés en fait à être en fait cadenassés par les cinq mots clés du moment, c'est-à-dire réalité virtuelle. Enfin, bon, ça, c'est peut-être plus déjà du moment, c'était peut-être il y a deux ans, IA, etc., etc. Métaverse, voilà, ça a disparu, mais voilà, il y a quand même, on sent qu'il y a quand même ces espèces des effets de et en fait, c'est, en fait, d'une certaine manière, c'est à nous de nous positionner, puis en fait, d'enclencher en ces mouvements-là, parce que si on le fait pas, personne ne le fera, quoi. Et en ça, moi, je trouve que justement, l'initiative de, en fait, je pense, pour les nommer, Aymeric Mansou, Marlo Zudeval, qui est en fait toute la communauté autour de Rotterdam et de XPub, je trouve qu'ils font un travail fantastique. En fait, il y a aussi Brenda Noël, en fait, qui travaille. Enfin, ils sont nombreux, hein, nombreuses. Ils font un travail fantastique sur ce sujet précisément. Il y a Roule Roskamabing. Et notamment, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ça s'est enclenché dans les mécaniques des alternatives aux réseaux sociaux. Et que, d'une certaine manière, il y a comme quelque chose où, à un moment, là, il y a un usage qui est précis, qui est sensible, sur lequel qui est assez concret, en fait, sur lequel tout le monde peut vraiment. Enfin, aujourd'hui, on fait l'expérience. Et moi, je suis assez convaincu par ce truc-là. Quoi. Une question par là-bas.
Je suis ravi de voir qu'on a monté un club qui va peut-être réussir à convaincre Elon Musk de surfer sur un Nokia 3330. Plus sérieusement, j'ai une question, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'échappe un petit peu. C'est quoi la différence avec l'émulation ? Je connais des gens qui sont sur des Thomson TO5 ou des Amstrad. Alors, je sais pas comment ils se débrouillent pour aller sur Internet, mais ça existe depuis toujours. Il y a des systèmes qui existent qu'on peut télécharger. Quelle est il y a peut-être quelque chose moi qui m'échappe, qui m'intéresse du coup. Quelle est la différence ? C'est essentiellement, enfin, je sais pas.
Bah, l'émulation, c'est faire tourner un ancien système sur un récent. Alors que là, c'est plutôt faire tourner un récent sur un ancien. Ce serait l'inverse. Mais ah oui, mais là, c'est plutôt de la démoscine. Que de l'émulation. L'émulation, c'est tu crées un émulateur d'un ancien système sur un nouveau, par exemple. Si tu veux, la démoscine, c'est les gens qui vont refaire. Et d'ailleurs, Jérôme, avec le Dead Minitel Orchestra, s'appelait Demo. Il y avait une référence directe à ça. Donc, c'est les gens, ils vont, par exemple, faire tourner des jeux vidéo sur des imprimantes ou sur des trucs qu'ils ne devraient pas le faire, avec le moins de. Je sais qu'il y avait une compétition de faire des jeux avec le moins de. C'était le 4K ou je sais pas quoi. Voilà, enfin bref, pas 4K en vidéo, mais 4 kilo-octets. Donc ouais, le faire avec le moins possible. Donc ça rejoint cette idée de permacomputing aussi. Donc ouais, c'est lié tout ça.
Mais ça vient de la démo-sale, de toute façon.
Ouais, complètement.
Il est issu de la démo-sale.
Ouais.
Donc du coup, c'est une sorte de nouveau terme qui prolonge un peu cette...
C'est une sorte de conceptualisation, idée, ouais. On va dire plus politique peut-être, ouais. de ce terme ou de cette idée-là. Mais oui.
Je veux dire, dans la démoscène, il n'y a pas forcément un usage autre que esthétique ou de prouesse technique.
Oui, voilà, il y a vraiment un côté challenge technique. Mais alors, est-ce que... Bon, j'ai pas trop envie de parler d'intelligence artificielle, mais c'est intéressant de voir que la Chine, étant interdit d'accéder à ses cartes graphiques hyper puissantes, a créé un outil de AI plus efficace avec des cartes graphiques moins puissantes pour rencontrer les États-Unis. Ça montre bien que finalement, quand on a besoin ou quand on n'a pas les ressources...
J'ai envie justement de mettre les deux pieds dans le plat sur ce sujet-là, juste en ce moment.
Voilà.
Ce qui s'est passé il y a deux semaines à DeepSeek, on ne sait pas trop. Il y a peut-être du gros bullshit.
C'est hein, ça. Il se peut qu'ils aient dépensé plus
quand même. Ouais. Je pense que j'ai écouté des gros geeks qui m'ont dit « Ouais, non, ça, c'est pas crédible ce qui sort. » Néanmoins, ils ont mis le pied dans le plat. C'était plus politique que ça. Une semaine après, la fin de TikTok et Trump qui lâche 500 milliards, donc plus que le programme Apollo pour l'IA, les Chinois qui arrivent en disant « Ok, vous voulez jouer au con ?» C'était très bien vu. Donc politiquement, c'est très, très bien vu. Après, techniquement, ouais. Si ce n'est que ça a donné une petite puce à l'oreille, que les investissements en termes de, d'infrastructures, parce que ce que Trump proposait, c'était 500 milliards sur les infrastructures, pas sur la R&D. Donc ça change tout. Donc ils savent que ça coûte une blinde. Les Chinois ont mis le doigt où ça faisait mal. Et ils ont sorti un truc comme ça qui était un peu plus futé techniquement, il semblerait. Mm-hmm. C'est-à-dire que comme ils n'ont pas accès au GPU, ils ont fait des réseaux de neurones en assembleur. Je me dis, wow, putain, les brutes, c'est vraiment brutasse hein, ce qu'ils ont fait. Si c'est vrai, c'est fort. Mm-hmm. Ça peut changer le truc. Il y a un petit truc qui sort, comme quoi, ouais, là, enfin, moi je le sens comme un début de la bulle qui va péter parce que c'est juste, ça peut pas tenir en fait, ça peut pas tenir. Et ce qui s'est passé là depuis deux semaines, tu dis, ah ok, ça peut peut-être changer la donne sur le truc. Si ce n'est que le dernier modèle de DeepSeek tourne sur une Raspberry. Oui. Alors lent, mais ils arrivent à le faire tourner sur un Raspberry. Il fait, waouh. Et l'autre.
Bientôt sur Minitel, oui.
C'est sorti aujourd'hui, je crois, j'ai vu.
Ouais, et alors c'est vrai qu'on parlait des low-tech en fait. C'est peut-être l'âge des fail tech maintenant, et donc de considérer un petit peu toute la loose et tout le rêve qui nous a été vendu à travers les véhicules autonomes, le métaverse, aujourd'hui l'IA, et tout ça est quand même en train de gentiment tomber, considérant que l'IA, par exemple, n'a pas augmenté la productivité économique des travailleurs qui l'utilisent, et que donc à un moment, cette bulle, elle va provoquer une sorte d'échec. Donc peut-être qu'il faut effectivement embrasser ces fail tech et puis les pousser un peu plus vite dans la tombe pour abonder ce compost de permacomputing et puis faire générer une autre vision de la technologie que celle qui nous est vendue aujourd'hui, qui est quand même...
Il y a le compost computing qui arrive après.
Oui, il y a toujours un nouveau truc. Il y a beaucoup d'échecs là.
Ouais, comme quoi, dès qu'on dit le mot IA, c'est un peu le nouveau point Godwin. Et puis je rappelle aussi qu'on a quand même, justement, ces sujets ont été quand même vachement balisés dans le MIG, donc on a quand même des archives, il y a eu des choses sur la démocine, enfin, je veux dire, ça vient quand même faire écho à des sujets qu'on a abordés longuement. Et aussi, il y a Catherine Lenoble qui était venue parler un petit peu longuement, en fait, justement, de qu'est-ce que veut dire aujourd'hui low-tech, en fait, vu les différentes appropriations qui sont en cours. Hein, donc voilà, c'est comme des sujets qui nous traversent, hein, puis qu'on continue de pousser. Voilà, je sais pas trop s'il y a encore quelques questions. Profitez-en, parce que sinon après, de toute façon, on peut continuer peut-être en mode informel, doucement. Mm-hmm. Et puis, voilà, il y a des Minitel. Ah ouais, il y a quand même une question, c'est ça, je savais.
Non, mais j'entendais dire là que le truc de... Je reviens sur l'IA, attention, le point Godwin, tout ça, mais... Ouais, mais le truc qui était fait en assembleur, en fait, donc par rapport à donc la conservation des choses et tout ce genre de trucs, je me demande aujourd'hui qui sait encore faire de l'assembleur et d'ailleurs pour quel processeur. Est-ce qu'on apprend encore ça aux informaticiens à aller vers le plus... Parce que l'assembleur, en fait, c'est vraiment... son organe sexuel et son couteau, quoi. Il y a que ça, et donc c'est le minimal possible, et donc ça pousse à aller vers la décroissance et faire... avec le moins et attaquer au moins et faire le plus utile possible, je pense. Mais je suis curieux de voir si c'est préservé ce truc aujourd'hui ou s'il n'y a plus du tout cet esprit et qu'aujourd'hui, quand on a 20 ans et qu'on apprend à programmer, jamais de sa vie on touchera à l'assembleur et qu'on va faire que des langages hyper haut niveau qui bouffent plein de ressources et voilà.
Ça dépend de quel pays.
J'avais un étudiant en russe il y a quelques années qui était assez jeune et c'était une brutasse en assembleur. Et en fait, les Russes sont super bons à ça parce qu'en fait, ils ont été exclus du truc informatique. Ils ont développé des OS dans leur coin. En fait, ils ont fait toute l'informatique en mode, tu sais, comme les pinsons des Galapagos. Ils ont développé leur truc dans leur coin. Et alors, les Chinois, je suis pas sûr, mais clairement, ils n'ont pas accès au GPU. Enfin, officiellement. Après, alors ils disent, c'est peut-être du storytelling qu'ils ont développé des trucs pour parler du bordel de leur coin. C'est peut-être vrai, peut-être faux. Moi, je pense qu'ils ont des GPU, mais enfin bon, après.
Enfin, c'était juste une remarque sur l'assembleur. Enfin, ça résout pas tout. Je pense que c'est plus la manière de coder, d'essayer de pas utiliser trop de ressources et tout qui est important. Et sinon, c'est encore beaucoup utilisé aujourd'hui, mais de façon très minimaliste. C'est-à-dire que, par exemple, dans le kernel Linux, il y en a, mais le moins possible. Et c'est un peu pareil partout, quoi. Dans des trucs bas niveau, il y en a, mais le moins possible, quoi, en fait. Et les compilateurs sont plutôt assez efficaces de nos jours pour optimiser. Donc c'est vraiment pour des cas d'usage spécifiques en fait.
Bon, bah, comme ça me permet d'annoncer la conférence de la semaine prochaine, parce que justement, pour répondre à ta question, il y a Jérôme Hill, en fait, de Dyne qui va venir présenter justement des outils qu'il développe avec la fondation Dyne en fait, autour justement de la compilation et des compileurs en permacomputing. Donc il arrive vraiment avec il va venir présenter en fait des choses qui sont ultra légères et ultra simples pour des environnements ultra légers. Et ça sera l'occasion justement de tisser autour de ça. Donc on va partir des outils pour tisser autour. Donc ça va commencer très très geek. Voilà, mais il faut bien en passer par là. Et puis bon, je sais pas. Peut-être qu'on peut passer en mode informel. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions.
Et on aussi, va... ouais, j'ai un projet qui peut être un workshop qui c'est des fidgets à partir de déchets informatiques pour lutter contre les problèmes d'attention liés aux technologies et l'éco-anxiété. Donc voilà, donc ça sera des clickers, des scrollers qui permettent de ne pas utiliser son téléphone et de cliquer toute la journée. Voilà. Donc il n'y a pas d'électricité et il n'y a pas de code.
Et juste une dernière question. Je voyais que tu avais une caméra. Est-ce que tu as aussi fait des choses avec les caméscopes et les appareils de photo de l'époque?
Ouais, j'en ai récupéré dans cette collection. J'en ai quelques-uns. Je n'ai pas fait énormément de choses avec. Au moment du Covid, qu'on a pas pu faire la No School, j'ai failli créer un studio télé avec plein de caméscopes et faire un... J'avais un peu cette idée de faire comme une émission de télé low-tech avec des caméscopes et tout. Et le problème, c'est que les caméscopes, j'en ai récupéré quelques-uns et assez vite, ils marchent un peu et puis ils sont vraiment pas hyper stables. Et ils ont tendance à... C'est assez fragile. Et...
Dans ReFunk Media, t'en as utilisé
plein. Oui, il y en a.
Il y a pas de photos, c'est pour ça que c'est pas...
Oui. Mais c'était un choix de présenter mon travail sans images. Mais si vous allez sur mon site, vous pourrez voir. Il y a des caméscopes, des caméras. Là, c'est une caméra directe, quoi. Il n'y a pas de... C'est pas enregistré, hein. Je ne filme personne. Voilà. Vous voyez juste.
Il y a une question là-bas ?
Non. Elle faisait coucou. La caméra. Voilà. Là, tu te vois.
Et ben, bon, ben, on va remercier donc Benjamin, Spider et Benjamin et Soon.
Parasiter une conférence de façon biologique, en fait.
Du glitch humain, le glitch humain.